Salut les sportifs, c'est Hermano. Alors tu te demandes peut-être pourquoi on commence le podcast comme ça aujourd'hui. Bah, juste avant de lancer un nouvel épisode, j'aimerais te parler d'un truc. Le 13 mai prochain, je serai sur la plage de Bray-Dunes, près de Dunkerque, et je m'élancerai en solo pour une traversée de la France en courant et en nageant. 1 500 km en 30 jours, à raison de 50 km de course et de 2 heures de nage au quotidien. Je le fais pour moi, mais aussi pour mettre en lumière deux assos. Imagine for Margot et une bouteille à la mer. Aujourd'hui, la prépa avance vite et bien, mais c'est franchement pas facile de courir plus de 150 km par semaine tout en alliant un job à temps plein et une famille à chérir. Et justement, ce qui m'aide à encaisser la charge physique, à mieux me comprendre, à mieux prioriser et à mieux vivre la difficulté de ces situations, c'est une rencontre que j'ai faite au détour de l'enregistrement d'un épisode de podcast. À ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer Marc Mouezza, qui est depuis devenu mon préparateur mental. Pour moi, avant, la prépa mentale, ça relevait un peu du mystique, de l'ésotérique, du trifouillage de cerveau. Mais plus on avance avec Marc, et plus j'en découvre les bienfaits. On travaille sur les valeurs, les besoins, l'équilibre et la définition de mes objectifs, qui me permettent de progresser chaque jour et pas uniquement dans le domaine sportif. Je suis aussi devenu un meilleur professionnel, un meilleur papa et un meilleur époux. Alors, chère auditrice, cher auditeur, si tu veux en savoir plus sur Marc, je t'invite à aller faire un tour sur agri2pa.me/mrc. Tu pourras découvrir le portrait audio de Marc et tous les moyens de le contacter de ma part pour tester son approche. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast de Nakan. Alors, on s'excuse, Greg et moi, on a eu des journées, voire même des semaines un petit peu compliquées ces derniers temps, ce qui fait que vous avez eu un petit saut de 15 jours sans épisode. On s'était dit chacun de notre côté qu'on essaierait d'enregistrer quelque chose, notamment de répondre à ces fameuses FAQ qu'on a mis en place pour cette quatrième saison, mais malheureusement, ni Greg ni moi n'avons eu l'occasion de le faire. En tout cas, je suis très content de refaire un épisode en tête à tête avec l'ami Greg, que je salue au passage. Salut Greg.
Salut Hermano, comment est-ce que tu vas?
Je vais mieux. Alors, tu m'as pas fait la remarque, mais c'est vrai qu'en général, quand je fais des visios en ce moment, on me demande si les cheveux et la barbe, ça fait partie des symptômes du Covid. Et oui, effectivement, faut croire, parce que j'ai eu le Covid la semaine dernière, j'y avais échappé pendant 2 ans et demi, mais la barbe et les cheveux ont poussé. Mais à part ça, je vais bien, je vais même super bien parce que j'ai enfin pu reprendre un petit peu d'entraînement et ça fait du bien.
Ouais, c'est vrai que c'est dommage que les auditrices et les auditeurs ne puissent pas voir la petite fenêtre visio que j'ai sous les yeux parce que on pourrait se demander si en fait t'as pris les mêmes cachets d'aspirine, tu sais, que les deux Dupont dans l'album Objectif Lune, et puis après ils ont les cheveux qui poussent et qui poussent et qui poussent. En fait, je crois que ça commence même au pays de l'or noir et puis ça continue, ils ont des rechutes dans la fusée. Mais voilà, c'est un petit peu la question que je me suis posée quand je t'ai vu tout à l'heure. En tout cas, hormis cette pilosité extrême, on va dire que tu te portes plutôt bien aujourd'hui, donc je suis content d'enregistrer avec toi presque au sommet de ta forme.
Ouais, alors le sommet c'était plutôt il y a 3 mois et demi, hein, quand je me préparais pour mon défi et puis que j'ai dû postponer à cause d'une fracture de fatigue, mais là ça va quand même bien et je te dis, j'ai pu reprendre l'entraînement, ça fait 4 jours de suite que je fais une petite demi-heure de course à pied, donc ça va nickel.
Bon, bah, c'est parfait.
De quoi est-ce qu'on a décidé qu'on allait parler aujourd'hui? Il me semble qu'on va parler de résultats stratosphériques, de records du monde, si je ne m'abuse.
Mais oui, tu sais, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé quelques fois comme ça. On a mis des petites pincées ici et là. On a saupoudré quelques épisodes avec ce challenge qui allait arriver. On a fait des blagues sur la Fondation Phoenix et MacGyver. On a, voilà, tout ça. Et puis finalement, ça s'est passé le week-end dernier. Donc, il y a un peu plus d'une semaine au moment où on enregistre cet épisode, c'était évidemment ce fameux challenge, hein, alors qui a été tellement mis en avant, mais aussi parfois un petit peu critiqué dans le monde du triathlon, le fameux Sub 7 et Sub 8, dont on va débriefer un petit peu les tenants et aboutissants dans cet épisode.
Alors, effectivement, on en a déjà parlé sur le podcast et on en a déjà parlé, non pas dans cette saison, mais dans la saison 3. Est-ce que tu peux me rappeler un petit peu ce que c'est que le sub 7, sub 8? Parce que bah, moi, tu vois, j'étais malade, j'étais blessé, j'étais loin du monde ces 3 derniers mois.
Alors, on reprend depuis le début. Hein. On va reprendre avec déjà qu'est-ce que c'est que l'Ironman et qu'est-ce que c'est que la distance Ironman sur laquelle s'est déroulé ce record. Donc en fait, tout à travers le monde, on a différentes épreuves qui sont organisées sur le circuit Ironman. Le circuit Ironman, c'est clairement une marque hein, qui a acheté un label de triathlon qui est la WTC et qui organise des courses à travers le monde. Et sa course phare, celle pour laquelle elle est vraiment reconnue à travers le monde, c'est l'Ironman. Donc c'est ce triathlon d'extrême voit s'affronter des athlètes tant masculins que féminins sur la distance de 3,8 km de natation, ensuite 180 km de vélo et puis on termine tout ça avec un marathon, soit 42,195 km pour terminer ce triathlon. Et ça, c'est vraiment devenu une distance mythique du triathlon à travers les années. On a déjà parlé de l'historique hein, du triathlon et de l'Ironman d'Hawaï dans un épisode précédent du podcast. Mais voilà, la distance, elle est théoriquement toujours la même. Mais par contre, au travers des différentes épreuves qu'on va retrouver sur tous les continents, dans tous les pays quasiment, eh bien, ce qui va changer, c'est évidemment les conditions atmosphériques le jour de la course. On va trouver des natations sur des plans d'eau qui sont très différents, ça peut être de l'océan, ça peut être des lacs, ça peut même être des rivières, donc on a des conditions très très changeantes. On a des parcours vélo avec plus ou moins de dénivelé positif, plus ou moins de conditions de chaleur importantes, hein. On a un parcours qui est très différent sur un Ironman à Mont-Tremblant par exemple au Canada dans une région montagneuse ou à Kona à Hawaï ou à Lanzarote par exemple aux îles Canaries. Et puis après, bah, la course à pied également qui est très différente. Mais le dénominateur commun de toutes ces courses, c'est la distance. Donc 3,8 km de natation, 180 km de vélo et puis ensuite 42,195 km de course à pied. Ce qui nous fait quand même une belle quantité de distance à couvrir d'un seul tenant. Quand je parle d'Ironman parfois à des personnes qui connaissent pas grand chose au triathlon, ils me demandent mais tu fais ça sur combien de jours? En fait, ça s'enchaîne. Hein. On passe de la natation au vélo. Alors, en fonction de la disposition de la zone de transition pour sortir de l'eau, aller se changer, mettre un casque, des chaussures de vélo et puis partir sur son vélo, ça prend entre 2 et 7-8 minutes. Et puis ensuite, ben, pour passer du vélo à la course à pied, encore une fois, en fonction de la configuration, ça prend entre 2 et 5-6 minutes. Et donc du coup, voilà, on enchaîne tout ça et puis on essaie de perdre le moins de temps possible parce que bien évidemment, on prend le temps de départ au moment où on rentre dans l'eau pour commencer les 3,8 km. Et quand on passe la ligne d'arrivée du marathon, eh bien on coupe le chronomètre, il n'y a pas de pause pendant les transitions, etc. C'est des questions qu'on entend souvent, mais voilà, le chrono tourne tout le temps jusqu'à ce qu'on passe la ligne d'arrivée. Donc voilà, c'est déjà pour remettre un petit peu en contexte cette notion d'Ironman. Et puis là, on va surtout se concentrer sur la distance Ironman. J'en ai parlé, hein, c'est vraiment ces distances-là qui sont communes à toutes les courses, en tout cas en théorie.
Ouais, et d'ailleurs, je voulais juste rajouter une petite anecdote parce que pour la distance du demi-Ironman, du half-Ironman, du semi, comme disent nos amis belges aussi, je sais pas comment on dit en Suisse, est-ce qu'on emploie plutôt le terme half, demi-Ironman, semi-Ironman?
Alors, on parle un petit peu de tout ça. On parle de half, on parle de 70.3 en Suisse romande, parce que ça correspond au 70.3. Voilà. Et puis parfois, on utilise aussi ces notions de distance L. C'est un petit peu moins courant en Suisse romande qu'en France, où on utilise L et XL pour le half et puis le full. Mais c'est des choses qu'on entend aussi parfois.
Bon, enfin bref, je voulais juste revenir là-dessus pour dire que effectivement, ce demi-Ironman que l'on nomme aussi le 70.3, qui est une dénomination, je pense que beaucoup de gens comprennent mieux que half, que semi, que demi, que etc. Mais est-ce que tu sais à quoi correspond ce 70.3? Forcément, tu le sais, Greg.
Ben oui, parce qu'en fait, alors principalement dans le monde anglophone et encore plus principalement aux États-Unis d'Amérique, on parle d'Ironman aussi en parlant de 140.6. Et on se rend compte que ce 70.3 ou 70.3, c'est la moitié de ces distances. En fait, c'est la distance totale de l'épreuve. Donc, quand on cumule natation, vélo, course à pied, vous allez me dire, mais non, il vient de dire 3,8 km, 180 km de vélo, 42 km de course à pied, ça fait 226, ça fait pas 140. Oui, mais c'est en miles, parce que les Américains aiment bien compter en miles. Donc, le 140.6, c'est la distance totale de l'épreuve complète en miles. Et donc, le 70.3, c'est la moitié, donc la distance totale du half Ironman en miles.
Ce qui est très marrant quand même, je trouve, parce qu'effectivement, on parle beaucoup d'Ironman en Europe, en tout cas en France. On parle
très volontiers de 70.3 ou de 70.3 sans forcément savoir que c'est effectivement la distance en miles. Bon, voilà, c'était la petite anecdote que je voulais raconter. Si toi aussi tu nous écoutes en courant ou en voiture et que tu comprends enfin à quoi correspond le 70.3, n'hésite pas à nous envoyer un petit message, ça nous fera plaisir.
Ouais, et puis moi j'aime bien avoir l'anecdote aussi quand j'en parle à des personnes qui connaissent rien du tout au triathlon et qui me demandent mais ça veut dire quoi 70.3 ou 70.3. Je dis bah écoute, c'est un ratio, c'est tout simplement un ratio. Il y a 70 personnes au départ et il y en a que 3 à l'arrivée. Et en général, ça force le respect.
Il est
un gros mensonge, mais voilà, c'est joueur, comme tu dis.
Bon, donc on était là pour parler plutôt de records. Alors c'est vrai qu'on a réintroduit ce que c'était que l'Ironman, quelles sont les distances, quelles sont les spécificités de ce sport dans le sport, puisqu'on va pas se le cacher, hein, l'Ironman, le triathlon de distance Ironman, ça reste un sport à part entière dans le triathlon, et on a encore des triathlons plus extrêmes et plus longs. Mais on voulait parler aujourd'hui de records du monde. Alors pas forcément de records du monde sur la distance Ironman, on va quand même les rappeler pour l'occasion, mais surtout de ce qui a été réalisé sur ce fameux défi du sub-7, sub-8. Alors déjà, peut-être pour remettre en contexte, avant de reparler du sub-7, sub-8, moi j'avais pris quelques notes, j'ai fait un petit peu mes devoirs, et tu vas pouvoir les compléter si je ne m'abuse, mais je voulais rappeler quels étaient les différents records du monde sur cette distance Ironman. Alors, sur un Ironman officiel, donc tu l'as rappelé, Ironman c'est un label, c'est une marque qui englobe plusieurs courses à travers le monde. Donc sur le label Ironman, le recordman du monde c'est le Norvégien Christian Bublenfeld qui a fait la marque à l'Ironman Cozumel, donc au Mexique, en novembre 2021, et qui a réalisé un temps de 7h21 minutes et 12 secondes, ce qui est juste exceptionnel, parce que moi je me souviens que en 2010, quand je préparais un dossier de sponsoring pour essayer de jouer aux sportifs semi-pro, le record du monde, il était encore à peine en dessous de 8 heures. Donc c'est juste énorme, quoi.
Oui, oui, il y a une progression qui est folle sur ces dernières années. Alors, on parle énormément de la performance des athlètes. Il y a peut-être un côté, hein, on va y revenir quand tu vas donner un petit peu les autres résultats, hein, les deux autres records, parce qu'il y a un truc qui s'est passé quand même en 2021 à Cozumel, au Mexique, probablement quelque chose qui a favorisé l'établissement de records. Parce que maintenant, il y a certaines compétitions, on avait déjà accusé, entre guillemets, hein, quelques courses de volontairement un petit peu raboter un petit bout de natation. On enlève 150 mètres, ça paraît rien du tout. On déplace une petite bouée, personne ne s'en rend vraiment compte. Dans l'eau, c'est difficile d'avoir une mesure exacte. Ensuite, sur le parcours vélo, voilà, tout d'un coup, il y a une route qui est malheureusement en travaux. On doit faire un petit détour, ça raccourcit d'un kilomètre le parcours vélo. Et puis sur la course à pied, on fait un marathon qui mesure plutôt 40,2 km que 41,2, et au final on gratte ici 2 minutes, ici 45 secondes, ici voilà, et puis y a des records qui s'établissent, et c'est toujours évidemment bien d'avoir plein de records qui ont été établis sur sa course, parce que ça attire des athlètes populaires qui aimeraient peut-être faire 3 Ironman dans leur vie et faire une fois leur meilleur temps pour pouvoir dire ensuite waouh, j'ai fait un Ironman en moins de 10 heures, en moins de 11 heures ou etc. Et donc du coup quand tu auras dans les tabelles, comme on voit maintenant, que sur les 3 premiers temps qui ont été faits par des hommes sur le label Ironman, et puis les 3 premiers temps qui ont été faits par des femmes, donc il y a 6 chronos, sur les 6, il y en a 3 qui ont été établis à l'IM Cozumel de 2021, on se dit forcément, waouh, ça doit être une course très très rapide, peut-être qu'elle l'est un petit peu artificiellement.
Ouais, ou peut-être que ce jour-là, il y avait beaucoup de vent dans le dos, non ? Tu y crois ?
Ouais, aussi, Cozumel, c'est déjà un endroit où la natation est assez réputée pour être assez favorable, parce qu'il y a un courant un peu favorable sur la côte où se réalise la natation. Et puis, comme ce n'est pas une boucle qu'on nage que dans un seul sens, il suffit que le courant soit favorable dans ce sens-là, et puis on n'a pas à se le taper de face pour une partie du parcours, donc c'est quand même assez avantageux. Et puis ensuite, il suffit que... Bon, à Cozumel, il peut faire très très chaud, hein, donc du coup, ça peut avoir un impact sur la performance, mais il suffit que voilà, le vent soit favorable sur la plus grande partie du parcours vélo, et puis que le marathon fasse peut-être 39 ou 40 km, ou voilà, plutôt que 42, et tout d'un coup, on a des temps exceptionnels qui arrivent.
Ouais, alors moi j'ai juste noté les temps des premiers pour les records du monde, mais pour revenir sur Christian Bublenfeld, tu parlais du vélo, il a quand même tourné en 4h 2 minutes et 40 secondes les 180 km, ce qui fait une moyenne de 44 km/h et demi, 44,5 km/h sur 180 bornes, c'est juste énorme.
Oui, sachant que bah, c'est dans les conditions, et puis ce sera aussi important pour la suite de l'épisode, hein. Quand on roule sur Ironman, c'est dans des conditions de contre-la-montre cycliste, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être dans l'aspiration d'un autre coureur, on doit se situer au moins à 12 mètres de l'autre cycliste, soit qu'on rattrape, soit qu'on suit, et on n'a pas le droit de rouler dans la roue, ce qui permet d'économiser de la puissance et donc de rouler, entre guillemets, plus facilement, plus vite, hein. Quand on a des pelotons du Tour de France qui font des étapes régulièrement à du 42-44 de moyenne sur des étapes dites de transition ou des étapes de plaine, eh bien, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, hein, parce qu'on peut prendre un relais devant où on met plein de puissance pendant un certain nombre de kilomètres, puis ensuite, on vient, entre guillemets, se cacher dans les roues et on économise beaucoup d'énergie. On peut presque, dans le peloton du Tour de France, se laisser glisser à 40 km/h sans presque mettre un coup de pédale, j'exagère à peine, hein, et puis s'économiser sur de longs kilomètres comme ça. En triathlon, c'est pas du tout possible, en tout cas sur le triathlon long et la distance Ironman, c'est chacun fait son effort individuellement, et s'il y a du vent de face, tu peux pas te réfugier derrière l'athlète qui est plus costaud devant toi, tu dois affronter le vent avec tes propres cuisseaux et puis, y aller au fourneau. Donc c'est d'autant plus impressionnant d'avoir une moyenne qui approche les 45 km/h. Parce qu'il faut y aller, pédaler pendant 4 heures à une intensité qui permet de rouler à 45 km/h, c'est impressionnant.
Ouais, puis on le rappelle, on est en position contre la montre. Donc 4 heures en position contre la montre, sans relever la tête, en essayant d'être le plus aérodynamique possible et à maintenir une allure de presque 45 km/h, ça m'épate. Du côté des femmes, on est pas mal non plus. Alors, le record du monde, il a été battu cette fois-ci pas à Cozumel chez les femmes, mais à l'Ironman de Hambourg en 2022 par l'Allemande Laura Philippe en 8 heures, 18 minutes et 20 secondes. Donc, c'est presque une heure de plus que chez les hommes. On le sait qu'en général, les différences de temps sont notoires entre les hommes et les femmes sur Ironman, mais j'avais l'impression que ces dernières années, ça tendait à se réduire. Là, on a quand même une heure de différence, quoi.
Oui, alors effectivement, on a une heure de différence. Maintenant, on avait déjà discuté de l'endurance et puis de course entre les hommes et les femmes. Et puis, en fait, plus les distances s'allongent, moins les écarts entre les hommes et les femmes sont importants. Et sur des très, très grands ultra-trails, on a des différences qui deviennent vraiment infimes entre les hommes et les femmes. Sur l'Ironman, on constate qu'il y a quand même une différence avec les hommes et les femmes sur cette distance-là. Mais effectivement, on peut se dire que pendant des années, en fait, la différence était moins grande que ce qu'elle est revenue cette année. Si on prend à course égale, hein, parce que là, tu dis 8h18 et 20 secondes pour Laura Philippe, c'est tout récent, hein, ça a été fait cette année à Hambourg. Mais si on prend le record précédent, il a été établi par Sarah Svensk à Cozumel en 2021, justement. Donc là, on va pouvoir comparer très précisément. C'était 8h22 et 41 secondes. Donc, il a été établi le même jour et au même moment que Blumenfeld. C'est exactement une heure et une minute de plus que Christian Blumenfeld, qui était sur ce même parcours, ce même jour.
Ouais, donc on a effectivement à peu près une heure de différence. Mm-hmm. Juste pour la forme, j'avais noté aussi, et je vais rappeler là, les records du monde, que là, on était sur Ironman, sur label Ironman. Sur la distance Ironman, donc qui n'est pas une course de la World Triathlon Corporation, pour les hommes, eh bien, c'était l'Allemand Jan Frodeno qui a fait la marque lors du Tri-Battle. Tu sais, cette fameuse course où il était... pas seul contre lui-même, mais en fait seul contre Lionel Sanders. Donc ils étaient deux à prendre le départ. Donc là, on peut dire qu'ils étaient dans des conditions d'un triathlon Ironman, puisque il y avait pas de lièvre, il y avait pas de drafting, il y avait rien. Ils ont chacun nagé de leur côté, ils ont chacun roulé de leur côté, ils ont chacun couru de leur côté. Et là, Frodeno a fait la marque à 7h27 minutes 53 secondes. Donc je le rappelle, versus le temps du Norvégien Blumenfeld en 7h21 et 12 secondes. Mm-hmm. À l'Ironman de Cozumel. Et puis chez les femmes, le record sur triathlon distance Ironman, mais non label Ironman, il est détenu par l'Anglaise Chrissy Willington, et il date, hein, cette fois-ci, celui-ci, il a 11 ans, il date du Challenge Roth de 2011 en 8h, 18 minutes et 13 secondes, versus, je le rappelle, le record de cette année de Laura Philippe en 8h, 18 minutes et 20 secondes. Ce qui veut dire que l'Anglaise, elle est 7 secondes plus rapide sur le Challenge Roth, donc distance Ironman, que Laura Philippe, l'Allemande, sur la distance officielle Ironman à l'Ironman d'Hambourg de cette année.
Ouais, enfin, sur le circuit officiel qui s'appelle Ironman, hein, on sait que la distance n'est pas déposée. Hein, donc la distance, n'importe qui peut organiser une course de distance Ironman. Mais il n'a pas le droit de l'appeler Ironman, il doit l'appeler quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'on a l'Embrunman, c'est pour ça qu'on a l'Alpsman, et qu'on a plein de trucs qui sont en man, ou alors d'autres noms, ou alors un circuit qui s'appelle Challenge, et pas un circuit qui s'appelle Ironman, parce que le nom Ironman est déposé, mais n'importe qui, moi demain, je peux organiser ici, autour de chez moi, dans le Gros de Veau, une course.
Gros de Veau man, Gros de Veau woman.
Voilà, exactement. Simplement, la distance sera celle de l'Ironman, mais j'ai pas le droit d'utiliser le nom Ironman pour faire la promotion de ma course. Mais comme tu l'as dit, sur le circuit officiel, donc on a donné les temps, et puis sur toutes les distances Ironman qui n'en ont pas le nom, tu as donné les temps. Et effectivement, 7 secondes séparent la meilleure marque de Chrissy Wellington par rapport à Laura Philippe. Par contre, on voit que le record absolu, il est détenu maintenant par Christian Blumenfeld sur le circuit Ironman. Et là, c'est Ironman plus distance confondue. Donc ouais. Là, il n'y a plus de discussion.
Bon, ceci étant dit, je rappelle quand même que du coup, le record des hommes sur une course, que ce soit circuit Ironman ou juste distance Ironman, il est au-dessus de 7 heures. Mm-hmm. Chez les femmes, le record, il est au-dessus de 8 heures, même au-dessus de 8 heures et 18 minutes. Mm-hmm. On a parlé de ce fameux challenge sub 7, sub 8. Je me souviens plus du numéro de l'épisode, je le cherchais tout à l'heure pendant que tu parlais, mais impossible de le retrouver sur notre site, il va falloir qu'on revoie notre moteur de recherche. Bref, vous allez sur votre plateforme de podcast favorite et puis vous cherchez le podcast de Nakan, vous cherchez sub 7, sub 8. On en a parlé pendant la saison 3 quand on commençait à parler de ce fameux challenge. Donc Greg, rappelle-nous ce que c'est que le sub 7 et sub 8, sachant qu'on a rappelé les temps des records du monde.
Oui, on a aussi parlé dans le podcast, et ce sera intéressant de faire le parallèle sur le record du marathon, et donc le challenge sub 2 ou sub 2 de Kipchoge, qui avait tenté de passer sous les 2 heures sur marathon. Et puis on a discuté un petit peu de cette réalisation là parce que c'était un marathon qui était fait sur mesure, donc sur un circuit en boucle abrité du vent, où il avait des athlètes qui couraient devant lui pour lui faire une espèce de petite aspiration comme ça, parce que ça marche même en course à pied, on en a parlé à vélo, mais ça marche aussi en course à pied,
surtout quand on court à 22 km/h.
Exact, hein, c'est vraiment ça le l'aspect intéressant dans ce cas là et donc il avait réussi tout juste à quelques secondes près à passer sous les 2 heures sur la distance marathon. Eliud Kipchoge, il avait tout qui n'était pas officiel, hein. Il y avait des gens qui couraient à côté de lui pour le ravitailler, alors que normalement sur une course officielle c'est lui qui doit passer vers la table de ravitaillement et prendre son ravitaillement lui-même. Là on le lui amenait à la vitesse à laquelle il courait, il pouvait boire avec une paille de manière optimale et tout ça. Et puis il avait réussi à le faire, mais ça n'a jamais été homologué, hein, comme un record, et le record du marathon est toujours au-dessus de 2 heures, parce que bien évidemment qu'on ne peut pas homologuer une telle course comme un record. Et en fait ce challenge sub 7, sub 8, il s'inscrit un peu dans la même philosophie, c'est-à-dire que le but c'est vraiment de réaliser une performance. Alors c'est une performance sportive, peut-être même presque une performance artistique sur la distance de l'Ironman, mais par contre tout est optimisé pour essayer d'amener les athlètes à faire le meilleur temps possible. Et là, eh bien, on se permet des libertés par rapport aux règles habituelles de l'Ironman. Et c'est notamment le cas pour le parcours, c'est le cas pour le droit de prendre l'aspiration, en fait, ou de passer des relais sur le parcours vélo. Et puis, comme pour Eliud Kipchoge, c'est d'avoir des lièvres, des paisseurs, des personnes qui vont vous apporter du ravitaillement de manière idéale sur la course à pied pour essayer d'aller péter ce record, pour essayer d'aller le plus vite possible. Donc on le comprend, un sub 7, sub 8, ça veut simplement dire que pour les hommes, l'objectif c'était de passer sous les 7 heures pour faire l'entier de la distance Ironman, et puis pour les femmes, sub 8, c'était de passer sous les 8 heures.
Ouais, et donc la barre était haute, même si, on le rappelle, les conditions n'étaient pas les conditions de course. Quand on a parlé la première fois de ce challenge, on avait 4 athlètes qui étaient en ligne prêts pour prendre ce départ. Parmi ces 4 athlètes, on avait 2 femmes et 2 hommes. Oui. Et puis, il se trouve que quand le challenge a eu lieu, ce n'était pas tout à fait la start list qui était prévue. On peut peut-être déjà commencer par ça.
Oui, on avait Lucy Charles et puis Nicolas Spierig, donc une Britannique et puis une Suissesse qui était prévue sur le tableau féminin. Et puis, eh bien, on se rend compte que finalement, c'est pas ces deux athlètes-là qui ont terminé le challenge. Alors, Nicolas Spierig, la Suissesse, était bien là au départ. Par contre, Lucy Charles, elle n'était pas au départ de ce sub-8, puisque c'était le sub-8 pour les femmes. La raison, elle est toute simple, hein, c'est que malheureusement, eh bien, Lucy Charles s'est blessée pendant sa saison de triathlon, fracture de fatigue, et puis du coup impossible pour elle de prendre le départ d'une compétition, là, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit le sub 8 ou n'importe quelle autre course. Elle est forcée d'être au repos, et donc du coup c'est Kat Matthews qui a remplacé Lucy Charles sur le plateau féminin. Et puis il y a une petite histoire aussi un peu similaire sur la sélection masculine.
Oui, tout à fait, puisque le départ aurait dû être donné entre Christian Blumenfeld, donc on le rappelle quand même, un champion olympique, et détenteur du record sur l'Ironman de Cozumel en 2021, et l'un des frères Brownlee, si je ne m'abuse, et bim, patatras, pareil que Lucy Charles Barclay, et bien à quelques semaines du départ, le frère Brownlee a dû déclarer forfait, puisque lui aussi souffrait d'une facture de fatigue, et lui aussi à la hanche, comme Lucy Charles. On se demande où est-ce qu'ils ont été convolés, et en plus ce sont deux Anglais, évidemment, non mais voilà, les deux Anglais qui auraient dû prendre le départ n'ont pas pu le faire. Donc là, pour le coup, la start list chez les hommes était bien composée de Christian Blumenfeld et puis de Joey Skipper. C'est tout ce beau monde, ces quatre personnes-là ont pris le départ. Moi, ce qui m'a étonné, alors je dois l'avouer, je n'ai pas suivi le challenge, sauf les quelques dernières minutes. Et quand j'ai branché ma télé, j'ai vu que effectivement les hommes étaient partis. Après les femmes, une heure après les femmes, et pourtant j'avais l'impression que à quelque chose près le compte à rebours, enfin du moins le nombre de kilomètres qui restaient à parcourir entre les hommes et les femmes sur la fin du challenge était quasiment identique, ce qui montre bien là encore une fois que on a même sur ce type de challenge là une différence quasiment d'une heure entre les temps, la marque effectuée par les hommes et la marque effectuée par les femmes.
Oui, alors en fait en réalité on a un tout petit peu moins, mais effectivement il y a une différence qui est à peu près d'une heure. On verra exactement quand on va décortiquer les temps qui ont été réalisés pour cette épreuve. Maintenant, voilà, c'est pas surprenant que sur un circuit officiel, on ait une différence qui soit de l'ordre de l'heure, et puis que sur ce type d'épreuve-là, où tout est optimisé et pour les hommes et pour les femmes, eh bien, on retrouve ce même niveau de différence. Par contre, comme le temps est plus court, puisqu'on raccourcit le temps parce qu'on optimise tout, eh bien, si on prend en pourcentage, c'est probablement très proche, hein, d'un Ironman officiel. Mais comme le temps est plus court, bah, l'écart est lui-même aussi un petit peu plus court. Et donc, du coup, bah, ça se traduit non plus en une heure, mais en 48 minutes ou quelque chose de cet ordre-là.
Ouais. Alors peut-être avant de passer justement aux résultats, aux temps qui ont été réalisés, on peut reparler encore une fois des conditions de course. Alors en natation, est-ce qu'on avait le droit à des lièvres ? Est-ce qu'ils ont opté pour des lièvres, c'est-à-dire pour des gens qui ont ouvert la route, on peut parler de route, et de manière à pouvoir nager dans un sillage ?
Alors oui, le parcours de natation, c'est intéressant parce que 3,8 km de natation, de toute façon, ça demande quand même de déployer de l'énergie. Alors forcément, on gagne un petit peu en étant dans les pieds. Mais là où on gagne en fait énormément en natation, et surtout pour des athlètes de ce niveau-là, c'est quand on optimise le chemin. C'est-à-dire, bah, d'une part, le chemin était une ligne droite. On n'avait pas un aller-retour comme on a souvent sur un parcours d'Ironman, ou alors une espèce de rectangle où on s'éloigne de la plage et puis ensuite on la longe au large et puis on revient un peu plus proche et on revient ainsi, parce que ça veut dire que s'il y a des courants qui soient favorables ou défavorables, ils s'annulent puisqu'on peut les prendre à l'aller dans le dos et puis au retour de face ou l'inverse. Mais là, c'était vraiment aller d'un point A à un point B en ligne droite, et puis surtout que ce chemin-là était optimisé puisqu'ils avaient des repères visuels sous l'eau pour tenir la ligne optimale, et ça aide beaucoup parce que ça permet de nager comme en piscine en gardant la tête bien optimale au niveau de la position du corps et pas relever la tête tout le temps pour être sûr qu'on va dans la bonne direction, éventuellement faire des écarts. Et je pense que ça, c'est déjà un point qui est encore plus intéressant au niveau de l'optimisation du parcours de natation. Ça permet de gagner de nombreuses minutes. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que la natation sur le challenge sub 7, sub 8, ça n'a pas été des temps qui ont été complètement hallucinants par rapport à ce qu'on voit sur le circuit Ironman.
Ouais, non, moi j'avais en tête, et tu le sais, j'anime un autre podcast et on avait reçu un ancien nageur olympique qui fait maintenant du triathlon et qui a été d'ailleurs à Hawaï, je veux parler de David Holderbach, et lui nage les 3-8, c'est un amateur, hein, il nage les 3-8 en moins de 50 minutes. Et là, effectivement, Christian Blumenfeld a nagé les 3,8 km en moins de 50 minutes, puisqu'il a nagé en 48 minutes 21 secondes, mais par contre, Joey Skipper, 53 minutes 24, Nicolas Spierig, ou plutôt Cat Matthews, 54 minutes 43, donc qui vient se placer une minute derrière Joey Skipper, et puis Nicolas Spierig qui ferme la marche en 54 minutes et 50 secondes, donc 7 secondes après Cat Matthews, mais on reste quand même dans un mouchoir de poche entre Joey Skipper, Nicolas Spierig et Catherine Matthews. Donc ouais. 54 minutes, que ce soit pour les femmes et encore plus... enfin, j'ai même pas envie de dire, et encore plus pour les hommes, parce que souvent la natation, les femmes sont quand même très 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 rapides, mais 53 ou 54 minutes sur distance Ironman, c'est quand même pas exceptionnelissime, quoi. On a vu des Ironman qui se nageaient beaucoup plus vite que ça.
Oui, alors on l'a dit, hein, y a des Ironman dans lesquels des plans d'eau sont assez favorables. On peut prendre les temps de natation. Par exemple, je connais le cas de l'Ironman de Chattanooga dans le Tennessee aux États-Unis, où en fait, tu nages dans le fleuve Tennessee et tu descends la rivière. Et donc, suivant l'année et le débit d'eau de la rivière, ça peut vraiment donner des courses extrêmement rapides parce que tu vas dans le sens du courant. Donc voilà, c'est... après, le temps s'équilibre parce que la course n'est pas forcément hyper facile sur les deux disciplines qui suivent, mais d'un autre côté, bah voilà, ça peut donner des temps très différents, et si tu nages dans des conditions où il y a des courants défavorables et où il y a énormément de vagues, etc., ça peut donner des temps très très compliqués. On peut aussi parler de droit de porter la combinaison ou pas en fonction de la température de l'eau. À Hawaï, on nage sans combinaison, les temps de natation sont forcément moins bons parce que la combinaison aide à flotter et à glisser dans l'eau, donc ça change énormément les temps de natation. Et puis, bah, ce sera pareil aussi pour les conditions sur le vélo et la course à pied. Beaucoup de choses sont influencées par le parcours. C'est pas que, comme on court un 10 000 mètres sur une piste où une piste, elle est toujours plate. Et puis, il peut y avoir un vent un peu favorable, défavorable, mais les temps sont beaucoup plus serrés sur les pistes à travers le monde. Surtout dans les stades, en général, le vent a moins d'importance que si on court sur la piste du club du coin où il n'y a même pas de gradin et on se prend un mistral ou une bise dans la figure. Enfin bref, tout ça pour dire que les temps de natation, effectivement, ne m'ont pas surpris. Et puis quand j'ai vu les temps à la sortie de natation, alors moi je suis un peu entre le mec complètement assidu qui a tout regardé et le mec qui s'est intéressé un petit peu comme ça de loin au sub 7 sub 8, j'ai regardé des petits insights de temps en temps, j'ai pas suivi les 7 ou 8 heures de course en intégralité derrière mon ordinateur, mais j'ai regardé quand même de temps en temps ce qui se passait, et quand j'ai vu les temps de natation, je me suis dit il va quand même falloir pousser sur le vélo et puis il va quand même falloir y aller très très fort pour remonter et passer et casser en fait ces temps, parce que les temps de natation me semblaient être des temps qui étaient fidèles à des Ironman classiques.
Ouais, parce que pour refaire le parallèle, hein, on l'a dit, enfin hein, je l'ai dit tout à l'heure, Christian Blumenfeld, il fait la marque en 48 minutes et 21 secondes. Le même Christian Blumenfeld, à l'Ironman de Cozumel, quelques mois avant, il sort en 39-41. Donc il sort presque 10 minutes plus vite sur un Ironman normal, entre guillemets. Alors que là, il n'a pas un parcours optimisé, il n'a pas un tirant d'eau à suivre et autres. Pareil chez les femmes. Bon, là, c'est une autre femme qui a fait la marque. Mais si on prend Chrissy Willington, qui détient le record du monde sur distance Ironman, donc pas sur le circuit, elle sort en 49 minutes 49. Là, sur le sub 8, la plus rapide, c'est Cat Matthews, elle sort en 54 minutes 43, donc 5 minutes plus lent, entre guillemets, que pour le record du monde. Donc effectivement, quand on sort comme ça, je ne sais pas s'ils avaient un affichage des temps, s'ils avaient les informations, s'ils avaient... Enfin, ils avaient forcément, puisque à l'indifférence d'une course officielle, là, ils avaient une assistance avec eux. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont réagi quand on leur a dit « Bah écoute, ton temps, va falloir appuyer en vélo, la bonhomme ou mademoiselle. »
Ouais, ouais, ouais. Bon, je ne pense pas qu'il y avait des informations pendant la natation. Hein, ça me semble quand même un petit peu compliqué.
Non, non, mais à la sortie de l'eau.
Bien
quoi.
Évidemment, dès la sortie de l'eau, ils devaient avoir un insight. Maintenant, je pense que ils s'attendaient quand même pas à ce que ce soit sur la natation hein, qui joue leur corps, mais simplement il fallait pas non plus sortir de l'eau de manière trop tardive, parce que sinon bah, chaque seconde compte ensuite hein, parce que bah, on l'a dit, les records ils étaient quand même à 12 minutes pour les hommes et encore un peu plus loin pour les femmes pour aller les battre, ces records 7 et 8. Mais ensuite, les règles de l'Ironman ont complètement changé après, dès qu'elles sont ou ils sont passés sur le vélo. Parce que là, bah, contrairement à une course Ironman, bah, on avait le droit à des lièvres à vélo et puis de rouler dans les roues pour essayer d'aller le plus vite possible. Et là, c'est allé très très vite.
Et là, ça a été effectivement extrêmement rapide. Alors, on va reprendre la marque de Christian Blumenfeld. 3h24 minutes, je vous passe les secondes, ça fait presque 53 km/h. Et pourtant, c'était pas le plus rapide. Le plus rapide, ça a été Joe Skipper. 3h16 avec une moyenne de presque 55 km/h. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, hein, pour faire le parallèle avec le Tour de France, bah voilà, ils étaient dans les conditions du Tour de France. Ils avaient des lièvres, les mecs, enfin des lièvres, ils avaient un peloton devant eux qui les abritait de tous les côtés, devant, derrière, sur les côtés. Il n'y avait pas une once de vent qui s'abattait sur eux. Et puis, ils avaient juste à appuyer un petit peu sur les pédales pour se faire emmener et pour suivre le train.
Oui, et puis sur un parcours, donc d'abord un parcours qui reliait la sortie de la natation à l'anneau hein, sur lequel il faisait le record, donc un circuit vraiment en ovale qui permettait de ne pas avoir de virage où on doit ralentir, puisque bah, normalement on est sur des routes de circulation normale hein, sur un Ironman et sur une course de ce type-là. Donc là déjà, t'es comme sur un circuit en fait d'IndyCar quasiment, si les gens se représentent un petit peu ce que c'est. C'est un endroit où on freine jamais, où on n'a jamais besoin de tourner le guidon ou quasiment pas, et puis où on n'est jamais en train de ralentir. On peut avoir un effort constant, il n'y a quasiment pas de vent, il n'y a pas de dénivelé, et on pousse comme un bestiau sur le vélo, mais en plus, on a des gens autour qui vous créent un phénomène d'aspiration pour aller le plus vite possible. Et là, en fait, on est sur des allures, donc sur 180 km, pour que les gens se rendent quand même compte, hein. On est sur des allures qui sont typiquement celles des contre-la-montre du Tour de France ou des contre-la-montre des cyclistes pros sur 40 à 50 km. Mais la différence, c'est que là, les cyclistes pros sont seuls face à eux-mêmes et ils se prennent le vent dans la figure, tandis que là, nos triathlètes, eh ben, ils avaient des cyclistes devant qui leur faisaient barrage au vent et puis le phénomène d'aspiration. Mais ça reste quand même une performance incroyable. Rouler à 55 km à l'heure ou même 50 km à l'heure sur 180 km pendant 3h15 ou 3h20 en continu, c'est pharaonique comme effort.
Ah, c'est pharaonique. Alors, on a parlé des hommes, on va quand même mettre les performances des femmes en parallèle. Donc, Kat Matthews, 3h50 avec une moyenne de presque 47 km/h. Nicolas Spierig, 3h53, 46,3 km/h. Là aussi, pour les femmes, on est sur des allures qui sont pharaoniques. Je ne sais même pas si notre Jeannie Longo nationale, enfin en tout cas ma Jeannie Longo nationale, puisque moi je suis français, si elle aurait tenu 180 bornes à cette vitesse-là.
Ouais, alors ça, je ne saurais pas te le dire. Mais par contre, effectivement, on est sur des temps qui sont faramineux. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que Nicolas Spierig, bah, moi j'ai suivi sa carrière, elle arrête sa carrière cette année, hein. Elle a roulé sur un vélo, sur un cadre traditionnel, parce qu'elle est vraiment une grande habituée des distances classiques, donc des distances sur lesquelles on a le droit à l'aspiration abri derrière les autres cyclistes, où on peut rouler en peloton, hein. C'est la distance des Jeux Olympiques qu'elle a déjà remportée à Londres, et puis elle a fait encore des médailles après coup. Elle a un cadre classique sur lequel elle a mis des prolongateurs. C'est en général des configurations sur les Ironman hein, qu'on voit vraiment chez les sportifs amateurs qui font leur course, peut-être pour la première fois, ou en tout cas qui n'ont pas envie d'investir dans un vélo de chrono digne de ce nom. Elle a fait 3,53 sur les 180 bornes sur ce type de vélo-là.
Alors, ça lui a peut-être justement joué un mauvais tour, mais on en parlera plutôt à la fin. Bon, et puis après la partie vélo, et bah forcément, on a la partie marathon. Et moi, je trouve que c'est quand même sur ce challenge-là une partie aussi qui a été mémorable. On pourra peut-être rappeler les temps des records du monde de marathon sec. En tout cas, là, sur ce challenge sub 7 et sub 8, eh bien, Christian Blumenfeld nous fait la marque à 2h30 minutes et 50 secondes. Ça fait un 3 minutes 34 du kilo. Hein, je ne sais pas s'il y en a qui se représentent bien ce que ça fait. Allez faire un tour de piste à 3 minutes 34. Vous vous rendrez peut-être compte. Enfin, ce n'est pas un tour de piste, c'est plutôt 3 tours et demi. Et puis, son compère du jour, Joey Skipper, lui, fait la marque en 2h36 minutes et 43 secondes. Ça fait 3 minutes 42 du kilo. Vu qu'on en est dans les temps, on va continuer avec les femmes. Nicolas Spierig a été plus rapide sur le marathon. Elle fait un marathon en 2h45 minutes et 7 secondes. Ça fait 3 minutes 54 du kilo. On n'est pas si éloigné que ça, hein, entre les hommes et les femmes. Et puis, Kat Matthews, 2h46 et 9 secondes. Ça fait 3,56 au kilo. Voilà, entre Christian Blumenfeld, qui fait un marathon en presque 2h31, et Kat Matthews, qui fait le marathon le plus, entre guillemets, lent, en 2h46, on a que 16 minutes. Donc la différence, elle s'est vraiment faite sur le vélo entre les hommes et les femmes.
Oui, oui, la différence majeure, elle est sur le vélo, ça c'est sûr. Après, sur la course à pied, évidemment qu'il y a pas mal de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Là encore, chaque athlète avait son team autour de lui ou autour d'elle pour faire le pacing idéal pour, par rapport à ses performances estimées sur le marathon et puis par rapport à son état de fatigue après le vélo. Maintenant, je vais te dire que quand même, il faut trouver des athlètes qui permettent de gérer l'allure. Enfin, tu ne demandes pas à n'importe quel triathlète que tu connais bien parce que tu t'entraînes avec, que tu t'appelles Christian Blumenfeld, viens me donner le pacing. Moi, je vais courir mon marathon aux alentours de 2h30. Tu as certains triathlètes qui n'ont jamais fait 2h30 dans leur vie, même à sec. Donc, c'est quand même une performance qui est hallucinante. Et même 2h36 ou même 2h46, moi, honnêtement, tu dis le marathon le plus lent à Kat Matthews à 2h46. Moi, si je peux faire une fois 2h46 dans ma vie, mais je signe tout de suite toutes les pages recto verso. Voilà, je veux dire, ça reste des performances qui sont incroyables. Et puis, le temps de marathon, on ne triche pas autant qu'à vélo, parce qu'à vélo, ça aide énormément d'être dans les roues. Et on voit, les temps sont juste stratosphériques par rapport à ce qu'on voit sur le circuit Ironman. Sur la course à pied, tu dois courir. Certes, il y a de l'aide psychologique d'avoir des lièvres autour de toi. Certes, on t'apporte du ravitaillement plus facilement que sur une course officielle. Certes, tu es un peu moins fatigué parce que tu as moins dû appuyer sur le vélo. Et encore, parce qu'ils ont fait des temps stratosphériques. Donc, ils se sont fatigués en fait moins longtemps, mais probablement autant que sur un Ironman officiel. Mais il faut quand même le rentrer, le marathon, en 2h30. Et ça, c'est même en 2h46, hein, ça reste une performance qui est incroyable.
Ouais, alors moi je le redis, j'ai pas regardé la course, j'ai juste regardé par petits bouts, surtout à la fin. Une chose m'a étonné aussi, c'est que finalement sur ce challenge, les compétiteurs et les compétitrices avaient le choix du nombre de pacers qu'ils voulaient, ils avaient le choix des pacers qu'ils allaient prendre, et autant j'ai vu deux femmes et un homme, je dirais pas entourés de pacers, mais avec deux ou trois pacers devant eux, autant celui qui fait la marque, celui qui remporte le challenge presque haut la main, il avait une personne qui courait devant lui. Mmh. Après, et voilà, c'était toujours la même.
Oui, oui, oui. Ben, après, ça dépend aussi de ton type de personnalité. Et forcément, qu'avoir plein de personnes autour de toi, peut-être que ça peut aussi t'influencer d'une manière ou d'une autre. Je sais pas, il y a peut-être des coureurs qui sont plus à l'aise quand ils courent un peu seuls. Après, je pense que sur ce type de performance, t'es quand même obligé d'avoir quelqu'un qui te donne le tempo et qui, au moment où tu dis « Ah, je commence à avoir mal au mollet, je vais ralentir », et non, tu suis toujours ce pacer qui te donne l'allure, parce que sinon, t'aurais trop facilement, entre guillemets, tendance à vouloir t'arrêter. Mais je pense que c'est pas forcément aussi important d'avoir autant de pacers autour de toi que l'étaient les pacers de Eliud Kipchoge quand il a fait son sub 2, parce que la vitesse est quand même un tout petit peu moindre, même si ça reste quand même des vitesses très élevées. Et puis ça se joue quand même énormément à la fraîcheur physique et à la capacité de rentrer le vélo en étant capable de courir à des allures pareilles après. Donc bon, bien évidemment, c'est leur métier, hein, à ces gens-là, mais ça reste quand même des performances de haut rang. Après, on a des performances et on n'arrête pas d'avoir des superlatifs qui sont incroyables, vertigineux, des performances de fou, des performances incroyables. C'est une performance incroyable, hein, au final, mais ça a rien à voir avec une performance Ironman, en fait. Ça a rien à voir avec une performance qui est comparable à quelque chose qu'on fait sur un Ironman, parce qu'on l'a dit, il y a tout qui change sur ce challenge-là. La performance sportive de ce challenge-là, elle est incroyable, mais elle a rien à voir pour moi avec une performance sur Ironman. Et c'est un petit peu le côté négatif de l'histoire, c'est que maintenant... il risque d'y avoir une espèce de banalisation. On en parlait il n'y a pas longtemps dans un épisode, la banalisation des temps et des distances, mais il risque d'y avoir un contre-coup un petit peu négatif pour tous les triathlètes Ironman, et maintenant en particulier pour les pros. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentrera un Ironman un homme qui rentrera un Ironman maintenant en 7h08 ou 7h10, ah oui, mais bon, je veux dire, le record a été battu largement par rapport à ça. Et une femme qui te rentrera tout d'un coup un Ironman en 8h02 ou en 7h58, ah, oh là là, mais c'est loin de ce qui a été réalisé. Et c'est peut-être un petit peu le truc qui est dommage par rapport à ça. Et puis le deuxième truc, on va maintenant arriver au temps total, hein, si les gens n'ont pas encore fait le calcul mental de tous les chiffres qu'on a donnés, c'est que ça s'appelait sub 7 et sub 8. Et quand on a vu Eliud Kipchoge s'attaquer au sub 2 du marathon, il a fait, sauf erreur, 1h58 ou 1h59. Donc c'était vraiment, on se dit, il y avait un challenge jusqu'au bout. Là, quand on voit les temps, finalement, ce sub 7, sub 8, dans les conditions dans lesquelles ça a été fait, c'était presque trop facile.
Bah ouais, c'était presque trop facile parce qu'en fait, on regarde les temps totaux. Christian Blumenfeld fait donc la marque le premier en 6h44 minutes et 25 secondes. Donc il a mais explosé le sub 7. Il fait 15 minutes et 35 secondes
de mieux en fait que la marque était supposée être difficile à battre. Ça paraît presque trop facile.
Ça paraît presque trop facile. Alors derrière, on a Joe Skipper qui fait 6h47 minutes et 38 secondes, donc un peu plus de 3 minutes derrière. Et puis chez les femmes, c'était, j'ai envie de dire, encore pire.
On voulait passer sous les 8 heures. Et là c'est quasiment à la demi-heure que ça vient se battre, quoi.
Vas-y, je te laisse annoncer le temps pour les femmes, du coup.
Kat Matthews gentleman. Qui fait 7h31, et donc qui est la meilleure des deux femmes, au bénéfice d'un vélo et d'une natation plus rapide. Tu l'as dit, hein, Nicolas Spéry a couru le marathon plus vite, mais ça ne lui a pas permis de revenir parce qu'elle termine en 7h34. Mais tout ça, ça nous fait du 28 minutes, aller en gros d'avance sur le temps à battre pour Kat Matthews, et puis du 25-26 minutes d'avance pour Nicolas Spéry. Donc voilà, on a presque les mains dans les poches.
Et tout ça avec des natations qui n'étaient pas exceptionnelles. Donc je te laisse imaginer, si des natations avaient été exceptionnelles, ce que ça aurait pu faire comme marque supplémentaire.
Ça faisait 3-4 minutes de plus, de moins au temps total. Ça, c'est, si la natation avait été vraiment plus facile. Ouais.
Bon, enfin bref, tu l'as dit, les records sont beaux, la performance est belle, on est au-delà des conditions d'une course Ironman, ou même, pas forcément du label Ironman, mais d'un triathlon à partir du moyenne distance officiel. Donc ça, pour moi, ça laisse un goût amer, en fait. Et oui, la performance est belle, mais je trouve que ça, il y a moins de mérite quand même que la performance d'Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge sur le sub 2, parce que même si il était assisté, même si il était guidé, un marathon reste un marathon, et sur un marathon officiel, t'as quand même le droit de te mettre derrière quelqu'un. Sur un Ironman officiel, tu n'as pas le droit de te mettre derrière quelqu'un en vélo, donc je trouve que ça laisse un goût amer.
Oui, je suis assez d'accord. Autant, ces athlètes-là, on peut pas leur retirer ce qu'ils ont réalisé sur cette journée et sur cette épreuve. Mais moi, j'avais vraiment peur, hein, au début de cet amalgame dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, ça a pas manqué. Moi, j'écoute les médias qui sont les médias publics ici en Suisse romande. Et puis, On n'en a pas parlé tout de suite, mais tout d'un coup, il y a eu un journal du sport sur la radio romande. Et puis, dans ce journal du sport, il y a eu une interview par rapport à ces résultats-là. Et bien évidemment, le premier truc, c'est le record Ironman a été battu. Ensuite, la déferlante de superlatifs par rapport aux temps qui ont été réalisés, 7h34 pour Nicolas Spirig, parce que bien évidemment que c'est de la Suissesse dont on parlait en priorité. 7h34, la nouvelle marque sur la distance Ironman. Et finalement, peut-être que dans l'inconscient populaire des personnes un peu averties en sport, mais qui ne vont pas plus loin chercher l'information, ça reste 7h34. Et le jour où une autre sportive réalise un sub-8 sur un parcours officiel, pourquoi pas le parcours de l'Ironman d'Hawaï, parce que le record de l'Ironman d'Hawaï, actuellement, à ma connaissance, pour les femmes, ça doit être Daniela Riff, qui est une autre Suissesse, qui a réalisé 8h26. Donc on voit qu'il y a encore un monde, et on parle principalement des championnats du monde quand même dans les médias mainstream. Donc si l'année prochaine on parle d'une victoire féminine sur l'Ironman d'Hawaï en mettant 8h20, ce qui serait un temps extraordinaire pour une femme sur ce parcours-là, on dira mais c'est une heure de plus quasiment que le record qu'on nous a annoncé à la radio l'année passée. C'est presque nul, quoi. Et j'ai peur de
Et en plus, ils étaient au soleil et au bord de la mer.
Oui, c'est ça, ouais.
Non, mais effectivement... Moi, en tant que triathlète, je te dis, ça me laisse un petit goût amer, même si je salue la beauté du geste, la beauté de la performance. Et puis, on pourrait parler de la petite anecdote avec le ravitailleur de Christian Mubenfen, mais on a déjà fait un long épisode. Moi, je propose qu'on le termine sur finalement une question qui va être « Et après ?» Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va continuer à jouer à ce sub 6.45 ou sub 7.35 chez les femmes? Ou est-ce que ça va devenir un rendez-vous annuel d'essayer d'aller battre ce fameux record-là dans ces conditions-là? Est-ce qu'ils vont remettre leur titre en jeu? Est-ce que les deux blessés de cette année, les deux Anglais blessés de fracture de fatigue à la hanche, vont essayer de prendre leur revanche et vont insister auprès de la Fondation Phoenix pour que l'année prochaine, cette épreuve, ce recours, je ne sais pas, les questions restent ouvertes. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Écoute, moi je ne sais pas, ce que je sais c'est que le sport devient de plus en plus un sport spectacle, et puis je le disais en début d'épisode, c'est presque une performance artistique qui a été réalisée là, et ça permet de mettre une vitrine pour des marques et pour des sponsors. On peut faire le jeu du sponsoring, puisque il y avait la Fondation Phoenix qui a sponsorisé le truc, mais c'était aussi un event qui était sponsorisé par l'application Zwift, donc le logiciel de cycling de cyclisme indoor. Ça permet de mettre en avant des marques. Eliud Kipchoge, lui, c'était vraiment Nike, qui avait Nike. Tout sponsorisé avec un nouveau prototype de chaussures, avec des athlètes qui étaient habillés de la tête aux pieds avec des équipements Nike et bien évidemment les meilleures chaussures du marché, en tout cas de la marque. Et puis, on sait, Red Bull par exemple, les sports extrêmes et les sports mécaniques, on a plein de ce qu'on appelle du storytelling dans le marketing sportif maintenant, qui veut aller au-delà d'une simple performance, mais raconter toute une histoire qu'il y a autour et puis essayer de captiver les gens par de l'émotion, par un cheminement, par un accomplissement plus long que juste passer une ligne d'arrivée. On est un peu dans cet esprit-là. Maintenant, j'aurais tendance à dire « ça a été fait ». Il va falloir trouver autre chose, battre des records et des records, au bout d'un moment les gens ils se lassent, il va falloir trouver une autre histoire à raconter, donc je pense pas qu'on va continuer à se battre sur ce même type de format. Je pense que la prochaine big thing qui va arriver sur marathon, c'est quand la barre des 2 heures va tomber sur un marathon officiel, donc sur une course standard et pas ultra optimisée comme celle de Kipchoge. On y est bien plus proche du marathon en moins de 2 heures, à mon avis, que du sub-8 ou sub-7 sur un Ironman officiel, même si les temps et la différence qu'on a vu, c'est presque 28 minutes pour Kat Matthews qui ont été battues, mais il ne faut pas oublier que c'est un énorme avantage qu'elles ont eu sur le vélo par rapport à l'aspiration. Et à mon avis, c'est pas tout de suite que ça va se faire, en tout cas sur une course à la régulière, parce que évidemment, si on rabote la natation, on rabote le vélo et on rabote la course à pied, on met du courant favorable ici, et puis tout qui va bien ici et là, Ça va finir par se faire, mais sur une course vraiment réglementaire, je ne suis pas sûr qu'on le voit de si tôt, ces records-là. Après, chez les hommes, on est quand même un tout petit peu plus proche sur les temps officiels, mais encore, il faudrait discuter du 7h21 de Christian Blumenfeld, on l'a dit à Cozumel, savoir exactement dans quelles conditions ça s'est couru. 21 minutes, c'est quand même long à aller chercher. C'est aussi long d'aller chercher ces 20 minutes, voire plus, que ce qu'il a économisé sur le record sub-7 sur sa course. Donc, je pense qu'il y aura d'autres belles histoires, peut-être aussi un petit peu alambiquées dans le monde du sport, d'endurance ces prochaines années. Moi, je pense que le prochain gros truc, ce sera quand même le passage sous les 2 heures sur un marathon officiel, bien avant qu'on ait des performances telles que du sub-7 ou sub-8 sur de l'Ironman.
Eh bien écoute, je te propose qu'on en reste là sur l'épisode d'aujourd'hui, sur cette belle conclusion, et puis eh bien, éventuellement on refera un épisode, un de ces quatre, justement quand on se rapprochera du Sub 2 sur un marathon officiel.
Écoute, ce sera avec plaisir, et puis on profite de la fin de cet épisode pour rappeler aux auditrices et aux auditeurs qui sont encore là, qui nous écoutent encore déblatérer de cette performance Sub 7, Sub 8, de nous laisser leurs remarques, leurs questions, leurs commentaires, que ce soit par email, par message vocal ou par des petites notes, des étoiles, des commentaires sur Apple Podcasts par rapport au podcast de Nakan. On attend vos retours pour pouvoir aussi continuer à enregistrer des petites capsules de FAQ parce qu'on a reçu un petit peu moins de messages. Je pense que les gens commencent à partir en vacances, là ça arrive l'été, mais n'oubliez pas de nous donner votre question ou vos remarques, et puis nous on se fera un plaisir de réagir la semaine prochaine dans la prochaine capsule de FAQ du podcast, et puis on se rejoint théoriquement dans 2 semaines, hein. On va essayer de vraiment tenir le calendrier cette fois-ci avec les épisodes dans 2 semaines pour un prochain épisode.
Eh bien, ça marche. Donc, je te donne rendez-vous dans 2 semaines. Et puis, on va continuer à s'entraîner et à performer en essayant... Non, on va pas aller chercher sub-7 ou sub-8.
Ni sub-2, ni quoi que ce soit. Non. Même, non. On va se faire plaisir, nous, sur nos triathlons. Et
exactement.
Sur nos courses respectives. Voilà.
Allez, une bonne journée, Greg. Et bonne journée à toutes et à tous. Et à très bientôt.
À bientôt. Ciao.